Vous êtes avec SBS French.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Bonjour à toutes et à tous, il est 13h, bienvenue dans votre édition française du mardi 23 novembre 2021. Je suis Marianne Murat et avec Jean-Noël Ducasse, nous sommes très heureux de vous accompagner pendant une heure. Au programme aujourd'hui, les dernières actualités suivies du Journal des Sports. En deuxième partie d'émission, cap sur la France comme tous les mardis. Émile Matasso s'intéresse cette semaine à la situation qui se dégrade en Guadeloupe et avec cette question, quelle est la réponse de Paris? On vous emmènera également à Sydney découvrir l'exposition Impressionnante de Berlin. Le photographe Hubert Barre y dépeint Berlin-Est et Berlin-Ouest de 1985 à 1986, la présence du mur et les personnes qui vivaient de part et d'autre. Mais pour commencer, votre journal. Et à la une de l'actualité de ce mardi 23 novembre, un pas de plus vers le retour à une vie normale en Australie, avec les détenteurs de visa qui pourront revenir sur le territoire dès la semaine prochaine. L'Europe, mais aussi la Guadeloupe, théâtre d'affrontements et de violences sur fond de contestation contre les restrictions sanitaires. Et du sport, on attend les conclusions de la Ligue de football professionnel à propos des incidents survenus lors du match entre Lyon et Marseille. Tous les détails dans le Journal des Sports. Aujourd'hui, on commence le journal par une bonne nouvelle et ça fait du bien. Après près de 2 ans d'épidémie, de confinement, d'incertitude et de frontières fermées, l'Australie fait un pas de plus vers le retour à une vie normale, une vie comme avant, en se rouvrant un peu plus au reste du monde. Écoutez par vous-même.
From the 1st of December 2021, fully vaccinated eligible visa holders will be able to come to Australia without needing to apply for a travel exemption. Eligible visa holders, including skilled and student cohorts, as well as humanitarian temporary working holiday maker and provisional family visa holidays.
Vous venez d'entendre Scott Morrison annonçant que dès la semaine prochaine, les détenteurs de visa pourront de nouveau voyager librement sur le territoire. Le Premier ministre qui n'a pas caché sa joie, hein, surtout au vu de l'impact positif que cela va avoir sur l'économie australienne. Écoutez.
The return of skilled workers and students to Australia is a major milestone in our pathway back. It's a major milestone about what Australians have been able to achieve and enable us to do. It'll mean a lot for the economies of our country, right around the country, who need those workers and want to see those students return. And so we're looking forward to that occurring from the 1st of December. We have done this in an orderly way.
Cette annonce concerne beaucoup de monde, hein. Près de 200 000 personnes pourraient obtenir leur visa et venir en Australie d'ici janvier. Alors ça, c'était pour les bonnes nouvelles, hein. Sur une note un petit peu moins gaie, le virus n'a pas subitement disparu malheureusement. Si on fait un point sur la situation épidémique du pays, le confinement est à nouveau prolongé dans la ville de Catherine, dans les territoires du Nord. Cela fait une semaine que les habitants n'ont le droit de sortir de chez eux que pour des raisons essentielles, aller chez le médecin ou bien faire ses courses par exemple. Souvenez-vous, 2 personnes ont été contaminées mardi dernier, déclenchant le confinement qui devait durer initialement 3 jours, eh bien aujourd'hui ce sont 37 personnes qui sont malades. Un peu plus au sud, en Nouvelle-Galles du Sud, on dénombre 173 nouveaux cas et 2 décès en 24 heures. On écoute le Premier ministre du New South Wales, Dominic Perrottet.
We're not out of the woods yet. There will always be challenges. We have said from time to time we'll target those restrictions. That's in line with the national plan. But as a member of the previous crisis cabinet and now the COVID and Economic Recovery Committee, we will always consider the views of the health team, the mental health team.
Dans le reste de l'Australie, 19 nouvelles infections et 6 personnes hospitalisées à Canberra. Dans le Victoria, les chiffres sont plus alarmants, hein, 827 infections, ainsi que 19 morts depuis hier. L'État compte au total près de 9500 personnes malades du Covid-19.
I don't think you need any clearer demonstration than that vaccination is important, vaccination works, it's safe, it's free, it'll keep you out of hospital. And it'll mean less trauma and less pain and anguish for so many families. I send my deepest sympathies to all 19 of those families. This will be an incredibly difficult time for them.
Daniel Andrews, Premier ministre du Victoria. On termine notre tour non exhaustif de l'Australie avec le South Australia, l'État du Sud qui n'a pas enregistré de nouveaux cas ces dernières 24 heures, rouvre ses frontières à partir d'aujourd'hui. Alors, sur la situation épidémique, mais à l'autre bout du monde, en Europe, la reprise épidémique se confirme. Conséquence, les restrictions sanitaires se durcissent, mais conséquence de la conséquence, on dénombre de plus en plus de contestations et de violences. Si l'on prend un exemple du week-end, les villes de Rotterdam et de La Haye ont été le théâtre d'affrontements. Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte dénonce des actes d'une pure violence. « Je n'accepterai jamais que des idiots s'en prennent aux forces de police sous prétexte qu'ils sont mécontents. » Fin de citation. Alors cela nous amène à nous poser cette question. Qui sont ces manifestants? Si l'on regarde de plus près dans les cortèges, il semble bien trop facile et réducteur de dire qu'il s'agit simplement d'antivax. De gauche, de droite, issus de toutes les classes de la population, ces manifestants ont des profils très variés. Et pourtant, plusieurs points communs. Écoutez l'analyse d'Oscar Mazzoleni, professeur de sciences politiques à l'Université de Lausanne.
Il y a un mouvement qui réunit des contestataires des vaccinations qui n'ont rien à voir avec l'extrême droite politique. Il y a aussi des manifestants qui sont plutôt proches de la gauche radicale ou de la gauche de la gauche. Il y a des formes, disons, plus politisées, moins politisées. On est dans une phase où ces contestations réunissent des arguments très différents qui viennent de la méfiance de la science, des experts. Moi, je pense qu'il y a des éléments qu'on peut regrouper autour de ce que moi j'appelle le souverainisme individuel. Autrement dit, une demande de liberté absolue qui renvoie à l'usage du corps, à la liberté économique et qui renvoie également à la liberté de se faire une opinion. L'idée que, finalement, il y a une lutte, une contestation contre des mesures qui serait en quelque sorte une entrave à la liberté de l'individu, à sa façon de pouvoir décider de son propre destin, de sa propre vie, de l'usage de son corps.
Toujours en Europe, l'Allemagne aussi fait face de plein fouet à l'augmentation de cas de Covid. 30 000 nouvelles infections en un seul jour, c'est 50% de plus que la semaine dernière, ce qui a provoqué la colère du ministre de la Santé. Écoutez.
There is a likelihood that at the end of this winter, just about everyone in Germany will have been vaccinated, cured or dead, as some put it cynically.
Vacciné, guéri ou mort, Jens Spahn a donc opté pour une déclaration choc. De son côté, la chancelière Angela Merkel a estimé que les restrictions en vigueur étaient insuffisantes, notamment pour les personnes non vaccinées. Retour en France dans les Antilles, la situation en Guadeloupe ne cesse de se détériorer depuis une semaine. Des violences sur fond de contestation de l'obligation vaccinale pour les soignants. Le ministre Jean Castex appelle au calme. Il s'est entretenu hier en visioconférence avec les élus guadeloupéens. La correspondance de Valérie Gasse.
C'est d'abord un message de fermeté que Jean Castex a voulu envoyer aux responsables des violences en Guadeloupe.
La situation que connaît la Guadeloupe depuis quelques jours est d'une particulière gravité. Je condamne avec la plus extrême fermeté, ces violences. Les auteurs sont et continueront d'être arrêtés et jugés.
Pas question pour le gouvernement de donner l'impression de faiblir. À entendre le Premier ministre, la crise sanitaire est un prétexte et sous couvert de protester contre l'obligation vaccinale des soignants.
Il s'agit surtout désormais d'agresser et de piller.
L'objectif prioritaire de l'exécutif est donc bien le rétablissement de l'ordre public et le retour au calme sans transiger sur l'obligation vaccinale des soignants. Jean Castex l'a réaffirmé. De la fermeté donc, mais pas seulement. Le Premier ministre a annoncé la création d'une instance de dialogue pour accompagner individuellement les soignants ayant des craintes face au vaccin. L'envoi d'une mission du ministère de l'Intérieur pour travailler avec les pompiers. Et surtout, Jean Castex a demandé au ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, de poursuivre le dialogue avec les élus, un ministre dont l'opposition de droite s'étonne qu'il ne se rende pas sur place. En pleine campagne présidentielle, le gouvernement n'a pas le droit à l'erreur dans la gestion de la crise en Guadeloupe.
La situation en Guadeloupe, c'est le thème des French News aujourd'hui présenté par Émile Matasso. Tous les détails sur la situation sanitaire et l'analyse de la réponse apportée par Paris, c'est à écouter en deuxième partie d'émission et sur notre site SBS French. Revenons au Premier ministre français. Après avoir été déclaré cas contact hier, Jean Castex a finalement été testé positif au coronavirus. Son agenda a été modifié afin qu'il puisse poursuivre ses activités tout en étant placé à l'isolement pendant 10 jours, c'est ce qu'a déclaré Matignon. Et toujours en politique, de son côté, Emmanuel Macron prépare son bilan à quelques mois de la fin de son quinquennat. Le président était aujourd'hui dans le nord de la France, à Amiens, sa ville d'origine. Il s'est rendu pour la troisième fois sur le site de l'usine Whirlpool et malgré deux reprises successives et trois plans de licenciement, l'entreprise française n'a pas réussi à repartir. Emmanuel Macron, qui a fait son mea culpa devant les employés dans une ambiance très calme, « Je me suis fait avoir avec vous », a-t-il déclaré, compte rendu signé Anthony Lattier.
43 salariés n'ont toujours pas retrouvé d'emploi ou de formation depuis leur licenciement. Emmanuel Macron promet que l'État restera à leur côté.
Sur chacun, on va continuer à proposer des solutions individuelles. On sait que pour certains, c'est plus dur parce qu'il y en a qui sont fatigués, il y en a qui sont malades aussi. Certains pourront retrouver des emplois, pour d'autres, ce sera plus dur. Et donc, on va continuer de les accompagner, de les aider.
À la sortie, pas d'annonce, mais Frédéric Chantrel, représentant CFDT, reconnaît l'implication du chef de l'État.
C'était une promesse de campagne de suivre ce dossier. Il est venu en 2017 sur le parking, il est revenu trois fois, aujourd'hui c'est la quatrième. Après, c'est pas la visite du président qui va redonner un emploi à chaque, mais il suit ce dossier.
Plus dur avec Emmanuel Macron, le député La France Insoumise François Ruffin, pour qui ce dossier est un fiasco industriel dont l'État porte une part de la responsabilité, alors que deux repreneurs ont échoué à relancer une activité.
J'ai vu sa réaction, c'est de dire on s'est fait avoir collectivement. Je suis désolé, il s'est fait avoir, l'État s'est fait avoir, aussi parce qu'il voulait se faire avoir, parce que ça leur permettait de se débarrasser du dossier Whirlpool en le refilant à un repreneur. Ils avaient les moyens de faire beaucoup mieux sur le dossier Whirlpool.
Un dossier très politique et qui va le rester alors qu'approche une nouvelle campagne présidentielle.
En bref, toujours en France, ce chiffre, plus de 159 000 victimes de violences conjugales en 2020. 87% de ces victimes sont des femmes, avec une hausse de 10% pendant la période du confinement, d'après les services de police et de gendarmerie. Ce chiffre concerne les violences volontaires ayant entraîné ou non une incapacité de travail, mais ne prend pas en compte les homicides. On vous rappelle que 125 personnes sont décédées des suites de violences conjugales en 2020. Sur ces 125 décès, 102 étaient des femmes. Le reste de l'actualité internationale à présent, 5 personnes sont décédées à Waukesha, dans le nord des États-Unis, après qu'une voiture a percuté la foule lors d'une parade de Noël. La police a écarté la piste terroriste. Le suspect, un homme de 39 ans, a été arrêté et va être jugé pour homicide volontaire. 40 personnes sont également blessées, 6 enfants dans un état critique. On écoute le président américain Joe Biden.
We're all grateful for the extraordinary work of the first responders from law enforcement to emergency room doctors. Who are working round the clock to deal with the terrible consequences of what happened last night. My administration is monitoring the situation very closely. And an entire community is struggling to cope with the horrific act of violence.
On en vient à la météo de votre mardi, des températures de saison, printanières, voire estivales sur tout le continent. Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, il fera 25 à Perth, 25 à Adélaïde, 26 à Melbourne, 23 à Hobart, 21 à Canberra, comptez 23 à Sydney, 26 à Brisbane, 33 à Cairns et le plus chaud, 35 à Darwin. On vous rappelle les grands titres de l'actualité de ce mardi 23 novembre. Le détenteur de visa travail, étudiant, famille ou encore humanitaire, de nouveau les bienvenus en Australie. L'Europe, théâtre d'affrontements et de violences, en cause les nouvelles restrictions sanitaires dues à la reprise épidémique. Même son de cloche dans les Antilles, la situation se dégrade en Guadeloupe sur fond de contestation due à l'obligation vaccinale pour les soignants.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench.
C'est la fin de ce journal, merci à tous de l'avoir suivi. Surtout, restez sur SBS French, ce n'est pas fini. On se retrouve dans un instant pour le journal des sports présenté par Jean-Noël Ducasse.
Magazine des sports de ce mardi avec tout d'abord le tennis. Et on parle d'un tournoi peu connu. Pourquoi ? Parce que la Française Diane Paris est championne de 2021 de Montevideo. Elle a battu la Hongroise Pana Udvardi en deux manches, 6-3, 6-2, c'était dimanche. C'est le plus important titre de la carrière de la Française qui n'a que 19 ans. Et depuis hier, lundi, elle est devenue la 115e joueuse mondiale. C'est aussi le seul titre remporté par une Française en 2021. À Torino, les Français Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert ont remporté leur second titre du tournoi des Masters, cette fois en battant Rajiv Ram et Joe Salisbury en deux manches, 6-4 et 7-6. Et en simple, une bataille des jeunes loups, et c'est l'Allemand Alexander Zverev qui a battu le Russe Daniil Medvedev. L'Allemand remporte ainsi son deuxième Masters. On passe au foot, la Ligue 1 en France, l'Olympico avec Marseille et Lyon et le match arrêté après un jet de bouteille sur la tête de Dimitri Payet, le Marseillais. Explication de Sarah Loubacouche pour RFI.
La fin d'un suspense interminable, hein, 2 heures d'interruption pour que finalement l'arbitre siffle la fin de cet Olympico. Le match est suspendu dès les premières minutes de jeu. En cause, un projectile lancé par un supporter lyonnais sur le phocéen Dimitri Payet, une bouteille d'eau pleine jetée alors que le joueur s'apprêtait à tirer un corner. Le milieu de terrain qui aurait en plus été la cible d'insultes racistes. 5e minute, Payet sort sur une civière. Les deux équipes finissent par rentrer au vestiaire. Après plus d'une heure d'interruption, il est décidé que le match peut reprendre. Les Lyonnais reviennent sur le terrain, mais pas les Marseillais. Lassés, les joueurs de l'OL rentrent au vestiaire à nouveau. L'arbitre décide donc d'arrêter définitivement le match. Ce scénario, il est loin d'être inédit. Il ressemble à s'y méprendre à la rencontre entre Nice et l'OM. C'était en août dernier pour le compte de la 3e journée de championnat. Les Phocéens avaient refusé à nouveau de revenir sur le terrain. Les projectiles n'en finissent plus de pleuvoir sur les pelouses de Ligue 1 cette saison.
Et les premières sanctions sont tombées hier lundi, comme nous l'expliquent Sofiane Amazian et Adrien Delgrange pour RFI.
Et au terme d'une réunion exceptionnelle de la Ligue de football professionnelle, en début d'après-midi, l'OL s'est vu infliger un huis clos total jusqu'au 8 décembre, date de la réexamination du dossier par les instances. Et concernant une éventuelle perte de points ou une sanction financière, il faudra attendre au moins 2 semaines.
À noter que le principal concerné, le capitaine marseillais Dimitri Payet, n'a pas participé à l'entraînement.
Oui, touché psychologiquement après avoir reçu cette bouteille d'eau en pleine tête au bout d'à peine 2 minutes de jeu. Le meneur de jeu a d'ailleurs porté plainte contre X. L'homme responsable de cet incident a été arrêté et placé en garde à vue. Mais pour le président lyonnais Jean-Michel Aulas, cet acte isolé ne doit pas ternir l'image de son club.
On a 350 caméras dans le stade, ce qui permet d'identifier tout fauteur de trouble, et c'est ce qui a été le cas, alors que dans les cas précédents, il n'y avait jamais de fauteur, parce que souvent les organisateurs n'aiment pas aller rechercher très vite le fautif. Là, ça a été fait de manière évidente. Oui, il faut prendre un certain nombre de décisions, mais il ne faut pas frapper non plus à l'emporte-pièce les gens qui se comportent bien et qui organisent bien.
Autre fait marquant à cette rencontre, cet imbroglio entre le préfet de région et la LFP quant à la reprise ou non du match après 2 heures d'attente, ce qui a passablement énervé le président de la Ligue, Vincent Labrune, qui s'est exprimé ce lundi.
Paris reste largement en tête devant Nice. Nice qui s'est imposé 2-1 contre Clermont. Lens 4e, battu 4-0 par Brest. Marie-Amélie Motte et Arnaud Pontus pour RFI.
C'est la plus large défaite de la saison pour les Lensois. Très maladroits, ils ont touché 2 fois les poteaux. Le Béninois Steve Mounier a rapidement ouvert le score pour Brest. 3-0 à la mi-temps, 4-0 score final donc. Très mauvaise opération pour le Racing Club de Lens qui perd sa place de dauphin et descend à la 4e place. Une après-midi cauchemardesque sur laquelle revient Seko Fofana, le milieu ivoirien de Lens.
Ouais, ça a été un match très compliqué. Voilà, ils étaient préparés. On a manqué aussi parfois un peu d'agressivité. On a mal commencé le match. Maintenant, voilà, il y a eu des choses positives derrière. On a eu des occasions, mais on n'a pas su les concrétiser. Mais voilà, aujourd'hui, on a pris une grosse claque.
Et de leur côté, les Brestois ont enchaîné une troisième victoire en Ligue 1 cette saison. Ils remontent à la 13e place.
3 partout entre Metz et Bordeaux.
Oui, un match nul de mal classé. Metz est dernier de Ligue 1, Bordeaux 16e. Metz menait rapidement 2-0, puis 3-1. Mais les Messins sont revenus dans le match grâce à un doublé d'Opa Nguette. L'international sénégalais était remplaçant, mais il a donc fait basculer la rencontre avec ses 2 premiers buts de la saison en Ligue 1. Le match nul un partout entre Strasbourg et Reims. Et puis la victoire de Nice 2-1 contre Clermont grâce à un doublé d'Amine Gouiri. Nice dauphin de Ligue 1 à 11 points du Paris Saint-Germain.
En Angleterre, Manchester City est deuxième après sa victoire contre Everton. 3-0. Tottenham a battu Leeds 2-1. Une première victoire pour le coach Antonio Conte. En Espagne, victoire du FC Barcelone 1-0 contre Espanyol Barcelone. Un bon début pour le nouveau coach Xavi du Barça. En Allemagne, le Bayern de Munich reste en tête malgré sa défaite le week-end dernier face à Augsbourg. Vendredi, 2-1. En Italie, Naples premier se fait battre par l'Inter Milan. Troisième au classement sur le score de 3-2. On passe au rugby et la série des matchs d'automne terminée. Et un beau parcours pour le 15 de France, comme nous l'explique Cédric de Oliveira au micro de Thomas de Saint-Léger pour RFI.
Oui, 3 matchs pour les Bleus et 3 victoires, bilan parfait. Et alors même s'il y a eu les victoires face à l'Argentine et la Géorgie, c'est évidemment le succès acquis hier face aux All Blacks qui a marqué les esprits 40-25 dans un stade de France euphorique. Première victoire face à ces Néo-Zélandais depuis 2009. Et puis il y a eu la manière, 4 essais, plus large succès de l'histoire du 15 de France contre la Nouvelle-Zélande. Bref, énorme performance à mi-mandat de Fabien Galthié. Une performance qui pourrait être fondatrice pour les prochains objectifs de ce 15 de France et notamment à 2 ans de la prochaine Coupe du Monde à domicile. En tout cas, c'est l'avis du demi de mêlée et capitaine Antoine Dupont.
C'est sûr que c'est un point important dans notre construction, dans notre aventure, de pouvoir jouer les meilleures nations et de pouvoir passer au révélateur et montrer qu'on a le niveau. Bien sûr qu'on pourra construire sur ce match. On s'est aussi fait peur et peut-être ça aurait pu basculer dans le mauvais côté à un moment donné, mais on a su rester froid et mettre de notre jeu. Donc c'est sûr qu'il y a énormément de positifs sur lesquels on pourra construire.
Carton plein aussi pour les deux équipes. L'Irlande qui a également eu la tête de la Nouvelle-Zélande. C'était la semaine dernière, 29-20. Succès aussi contre le Japon et l'Argentine. Et puis le 15 de la Rose, l'Angleterre de son côté, a pris sa revanche face à l'Afrique du Sud qu'il avait battu en finale de la dernière Coupe du Monde au Japon. 27-26 hier à Twickenham grâce à une pénalité à la dernière minute du jeune ouvreur Marcus Smith. Immense combat remporté face aux Springboks à Twickenham, donc les Sud-Africains qui ont semblé éreintés par leur longue tournée en Europe. La saison a été longue, tout comme les Blacks d'ailleurs, qui n'avaient plus perdu 2 matchs d'affilée depuis les années 30. Ils ont paru fatigués. Petite consolation tout de même pour les Néo-Zélandais au terme de cette année marathon. Ils ont marqué hier face à la France leur 101e essai de l'année.
Un mot de Formule 1 avec Lewis Hamilton, le Britannique qui a remporté le Grand Prix du Qatar devant le Néerlandais Max Verstappen, qui n'a désormais que 8 points d'avance sur Lewis Hamilton, avec encore 2 courses cette saison. Un mot du championnat du monde de pétanque, et bien le Bénin est vainqueur de la Coupe du Monde des Nations. La compétition se déroulait à Santa Susana, en Espagne. Voilà pour le magazine des sports de ce mardi.
Restez sur les ondes dans un instant et comme tous les mardis, cap sur la France. Émile Matasso s'intéresse cette semaine à la situation qui se dégrade en Guadeloupe sur fond de contestation due à la crise sanitaire. Quelle est la réponse de Paris ? Réponse tout de suite.
Comme chaque mardi, place à présent à l'actualité française. Pour en parler, nous sommes avec Émile Matasseau. Bonjour à vous, Émile.
Bonjour Jean-Noël, bonjour à tous.
À la une, la situation qui se dégrade en Guadeloupe.
La Guadeloupe, oui, territoire français d'outre-mer, hein, qui se trouve dans les Caraïbes, à quelques 7000 km de Paris, de la métropole. C'est un archipel, 7 îles pour la Guadeloupe, avec l'activité qui est concentrée sur les deux principales îles, Grande-Terre et Basse-Terre. L'île Guadeloupe qui est en proie à des soubresauts, des violences depuis 10 jours maintenant. Et ce qui a mis le feu aux poudres, eh bien, c'est la décision du gouvernement français à Paris d'imposer en Guadeloupe l'obligation vaccinale et du pass sanitaire pour les soignants et pour les pompiers. Depuis le 15 novembre, un collectif d'organisations syndicales a lancé un appel à la grève générale. Les manifestants qui ont érigé des barrages, des voitures ont été brûlées, des bâtiments brûlés, détruits, des agences bancaires, des commerces saccagés. Les forces de l'ordre, les gendarmes tentent comme ils le peuvent de contenir cette colère qui explose avec des scènes assez surréalistes, des courses-poursuites hein, sur fond de chaos entre jeunes manifestants et forces de l'ordre. Les interpellations qui se multiplient, quelques blessés, un couvre-feu a été imposé aussi de 23h à 5h du matin à Pointe-à-Pitre, à Basse-Terre. La situation explosive en Guadeloupe et elle dépasse largement les simples questions sanitaires liées au Covid, cette obligation vaccinale pour les soignants. C'est une protestation générale des revendications sociales, revendications sur les salaires, etc., etc.
Quelle est la réponse apportée par Paris, par le gouvernement français ?
Bien, face à ces scènes d'émeutes, hein, des magasins pillés, vandalisés, le gouvernement a annoncé l'envoi en Guadeloupe de 200 gendarmes supplémentaires. Les écoles restent fermées pour l'heure, idem pour les tribunaux, les bureaux de poste. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, assume cette politique de fermeté, relayée par le ministre des Outre-mer, hein, qui a fait savoir dimanche soir que face aux gangs, il n'y avait pas d'autre réponse que sécuritaire. Le gouvernement craint plus que tout que cette crise en Guadeloupe s'installe dans la durée. Elle renvoie à celle de 2009, durant laquelle l'île était restée bloquée de la sorte pendant un mois et demi, 44 jours de blocage. Nous le disions, ce qui a déclenché cette colère, c'est la décision d'imposer le pass sanitaire pour les soignants et les pompiers, sous peine eh bien, de retenue de salaire. Cette décision venue de Paris, elle ne passe pas. Depuis des mois, il y avait déjà des manifestations hebdomadaires, comme en métropole d'ailleurs, pour protester contre l'état d'urgence sanitaire lié au Covid. Les syndicats réclament l'ouverture de négociations au sens large, une liste de 32 points a été envoyée aux autorités. On l'a dit, augmentation généralisée des salaires, résorption de tous les emplois précaires, l'arrêt de la répression judiciaire et patronale. Voilà quelques revendications qui figurent dans ce texte remis aux autorités. Cette colère, elle est portée par la jeunesse en grande partie, qui pourtant n'est pas directement concernée par l'obligation vaccinale. Les syndicats, ils demandent en tout cas le retrait de cette obligation vaccinale pour les soignants, ou à minima que des dérogations soient accordées. Pour l'instant, la situation insurrectionnelle, elle ne concerne que la Guadeloupe, hein, mais les autorités, le gouvernement craint que cette contestation se propage dans l'île voisine, en Martinique. Il y a des signes hein, qui nous montrent que la situation pourrait très vite également devenir explosive en Martinique.
La situation sanitaire Covid-19, pourtant en Guadeloupe, n'est pas bonne.
Bien, la situation sanitaire, elle est un peu meilleure actuellement qu'il y a 2-3 mois, mais les Guadeloupéens ont connu en juillet, août, septembre une vague Covid-19 terrible avec un taux d'incidence très élevé, hein, tout cela étant rapporté à la population, 390 000 habitants. Depuis le début de la pandémie, plus de 800 personnes sont mortes des suites du Covid dans l'archipel. Et il y a une réelle méfiance, résistance de la population envers le vaccin. Mi-novembre, là, seuls 46% de la population en Guadeloupe, 46% de la population des plus de 18 ans, a reçu au moins une injection. La couverture vaccinale, elle est meilleure chez les soignants, mais encore une fois, ce qui ne passe pas, c'est ce ressenti qui a toujours existé de se voir imposer des décisions depuis Paris, depuis des ministères qui se trouvent à quelques 7000 kilomètres de l'autre côté de l'Atlantique, sans tenir compte souvent du contexte local, des particularités sociales, culturel. Le variant Delta, en tout cas, il a entraîné la mort de plus de 300 personnes en quelques semaines en Guadeloupe. Une part importante de la population souffre de comorbidité, obésité, hypertension. On parlait du faible taux de vaccination chez les adultes, moins de 50% qui ont reçu au moins une dose. Il est encore beaucoup, beaucoup plus faible chez les jeunes. Avec le poids de la désinformation, des réseaux sociaux où circulent les thèses anti-vaccins qui sont extrêmement relayées, de même des discours parfois d'églises évangéliques. Et il y a aussi, il faut bien le dire, le souvenir du scandale du chlordécone. Le chlordécone, c'est ce pesticide qui a été utilisé sans retenue jusqu'au milieu des années 90 dans les plantations de bananes des Antilles, Guadeloupe et Martinique, malgré l'interdiction en métropole en 1990. Eh bien, il y a eu des décrets ministériels pour prolonger son utilisation dans les Antilles jusqu'en 1993, et le pesticide chlordécone qui a continué ensuite à être stocké et potentiellement utilisé de façon illégale. En tout cas, la vérité a été minimisée par les autorités, par l'État, sachant que oui, tous les sols sont pollués en Guadeloupe, en Martinique. Santé publique France estime que plus de 90% de la population en Guadeloupe est contaminée. Ce pesticide qui provoque des cancers. Le taux de cancer de la prostate chez les Antillais est parmi les plus élevés du monde. Des plaintes ont été déposées pour que les populations obtiennent réparation. Il y a des actions judiciaires en cours contre l'État français. Les eaux, les nappes phréatiques qui sont polluées, le pesticide, selon les experts, restera dans les sols des dizaines d'années, mais bien plus, des centaines d'années probablement. Cet épisode du chlordécone, utilisé de façon intensive dans les plantations de bananes durant plus de 20 ans, années 70 jusqu'aux années 90, il est ancré dans la mémoire collective des Antillais. L'État français, malgré des signaux d'alerte, des rapports scientifiques sur sa dangerosité, eh bien, a mis beaucoup de temps à réagir, à reconnaître au tournant des années 2000, quand le mal était fait, l'ampleur du désastre, avec les intérêts privés, économiques, qui bien souvent ont pris le dessus. Mais cet épisode, eh bien oui, il a durablement marqué les populations, marqué la Guadeloupe, la Martinique, et tout cela explique en partie le climat de défiance aujourd'hui envers le vaccin et ses décisions venues de Paris.
Merci Émile pour avoir décrypté l'actualité française. Bonne semaine, à bientôt.
Merci, à bientôt.
Tout de suite sur SBS French, on vous emmène à Sydney à la découverte de la série Impressions de Berlin. Le photographe Hubert Barr y dépeint Berlin-Est et Berlin-Ouest 1985-1986, la présence du mur et les personnes qui vivaient de part et d'autre.
conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Allez, aujourd'hui dans le programme en français, on va parler photographie et on a un photographe qui est avec nous pour l'exposition de Head On du festival, donc Head On de Sydney, c'est Hubert Barré. Bonjour Hubert.
Oui, bonjour, bonjour, bonjour à la radio, bonjour à SBS, bonjour à tous les Australiens.
Voilà, ouais. Alors aujourd'hui, vous êtes donc présent au festival de Head On, qui est un grand festival de photographie à Sydney. On le suit à peu près tous les ans. Parlez-nous un petit peu de votre travail. Qu'est-ce que vous avez nous emmené aujourd'hui à Sydney?
Alors à Sydney, ben déjà, je suis super content de pouvoir exposer à Sydney. Pour moi, c'est vrai, c'est une grosse dans ma carrière de photographe. Et ben, une grosse sélection pour moi. Et surtout d'exposer cette série sur Berlin. En fait, Berlin des années 80 à 90, disons que c'était exactement la date de 85-86, années 85-86, où j'étais photographe au service de presse des armées. Donc une période un peu noire, quoi, parce que bon, il y avait toujours le mur, et c'était quand même assez dur, quoi, une vie un peu difficile. Donc on pouvait noter dans trois secteurs, du côté ouest, en secteur américain, secteur anglais, secteur français. Et d'un autre côté, bien sûr, la présence soviétique, donc du l'autre côté du mur, où il y avait 120 divisions soviétiques qui étaient prêtes à bondir. Donc c'est vrai que c'était une période assez un peu dure. Donc j'ai montré à travers mon exposition, donc qui est visible donc à Sydney, et j'ai montré un petit peu ce climat, avec des photographies qui ont été prises à Berlin Ouest et Berlin Ouest. Donc c'est vrai que il est à noter que pour les images qui sont montrées de Berlin Est, nous on avait droit qu'à 6 heures en fait pour aller sur Berlin Est, donc dans le cadre de mission, et donc je faisais mes photographies à partir de ça. Donc c'est vrai que c'était assez limité en tant que photographe de presse des armées, et j'ai pu assister à des manifestations de la jeunesse communiste, donc pour des venues périodiques de Gorbatchev à cette époque-là.
Donc racontez-nous un petit peu, parce que c'est vrai que c'était un moment particulier en Europe, dire la décadence du système est-allemand et tout ce qui a pu en sortir après. Est-ce que quand même, vous parliez de période noire, est-ce que quand même il y a certains éléments de positivité qui ont pu être montrés quand même à travers des photos sur les changements qu'il y a pu y avoir? Ça s'est pas passé du jour au lendemain, ou alors est-ce que ça s'est passé du jour au lendemain, les changements?
Bon, c'est vrai qu'on vivait de toute façon, je veux dire, avec le mur, et moi à l'ouest, donc Berlin Ouest, il y avait une activité assez intense, c'était une ville assez culturelle à cette époque-ci, et donc il y avait beaucoup, c'était très 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 très, très vivant. Très très vivant, il y avait beaucoup de choses qui étaient faites au niveau culturel à Berlin-Ouest. Il y avait notamment la philharmonie de Herbert von Karajan, aussi à l'époque où j'avais fait quelques concerts. On avait aussi la réplique aussi à Berlin-Est, où on avait aussi des opéras assez, assez magnifiques. Donc au niveau culturel, Est et Ouest, c'était assez grandiose. Bon, le fait que le mur soit présent, on essayait quand même d'enlever cette barrière, mais c'est vrai que moi, quand je me déplaçais à l'Est, ben, j'étais toujours très satisfait parce que on voyait de belles choses, et notamment on avait accès à l'opéra, etc., au niveau des sorties, et puis on avait aussi on en profitait aussi pour découvrir aussi la ville, malgré tout, qui était quand même, enfin, disons, c'était un climat assez vétuste, parce que on avait encore des choses comme ça qui étaient restées intactes. C'était un peu fou, quoi. Mais de ce côté positif des choses, moi je rencontrais des gens qui étaient bon, voilà, on avait quand même une différence de vie, on avait deux mondes différents, un monde qui vivait 30 ans en arrière par rapport à Berlin-Ouest. On avait deux écarts comme ça qui étaient fous. Mais bon, moi, j'ai rencontré des gens qui avaient sourire tout de même.
Si on se projette, quand vous avez vécu la fin du mur de Berlin, donc plutôt 89, donc c'est 3-4 ans après la période qui est montrée sur les photos, comment vous, personnellement, vous avez vécu ça? Vous connaissez tous ces endroits, vous connaissiez ces gens, vous connaissiez un peu ce qui se passait à l'Est et à l'Ouest. Vous avez dû vivre ça plus particulièrement que d'autres, en fait.
Ouais, c'est vrai que... Bon, moi, j'étais habitué quand même à ce mur, quoi, en fait, parce que bon, ce mur, en fait, où il y avait beaucoup d'activités finalement autour de ça, et bon, après la destruction du mur, bon, bah, il se trouve un fait que bon, l'unification de l'Allemagne a été faite, et ça, c'était bon, c'était intéressant, il fallait le faire aussi. D'ailleurs, j'ai un petit souvenir, sur Berlin Ouest, il y avait une flamme qui brûlait tout le temps, et cette flamme, en fait, devait s'arrêter que quand l'Allemagne serait unifiée. Donc maintenant, elle ne brûle plus. Donc voilà, c'était un petit peu pour la petite histoire. Moi, je m'étais un peu regardé cette flamme. Je me dis, bah, tiens, ça va se faire un jour, c'est sûr, c'est vrai. Et je pense qu'on le souhaitait, parce que bon, c'est vrai que le clivage, quand ça les murs, il y en a qui laissaient leur vie, hein, donc en passant de l'Est à l'Ouest. Hein, où il y avait ces miradors, ce climat d'oppression sans cesse. C'était pas très simple, quoi. C'était vraiment pas très simple pour les gens. Donc, c'est vrai que, bon, de ce côté-là, moi, je pense que ça a disparu. Donc, ce mur, cette frontière a disparu. Après, bon, il en résulte que, bon, après les conséquences, il est vrai que, bon, bah, les personnes qui ont été comme ça libérées se sont retrouvées à l'Occident. Et, catapultées en Occident, bon, je pense que c'était une grande joie de retrouver les familles qui ont été séparées. Et que, pendant les périodes de mur, ben, ces femmes, les familles comme ça, se mettaient d'un côté du mur sur des endroits surélevés pour se faire des signes. On en voit d'ailleurs sur les photos que j'expose à Sydney. Et donc, je pense que c'est vrai que ça a fait du bien, justement, pour ressouder ces familles. Après, bon, il en résulte que, comme je vous l'ai dit, il y avait un écart quand même de vie, donc je pense qu'il a fallu quand même aux Berlinois de l'Est de s'habituer au régime de l'Ouest, peut-être aussi, qui, bon, voilà, économiquement peut-être certainement plus libre, mais bon, il y a aussi quand même des choses qui sont pas très intéressantes, et donc il a fallu à ces gens-là aussi de s'habituer au régime comme ça de l'Ouest, économique, etc. etc.
Et aujourd'hui, quand vous voyez que bon, tout a changé, je prends l'exemple du fait qu'il y a une grande chaîne de fast-food avec un grand M qui est installé à Checkpoint Charlie, est-ce que pour vous, ça vous donne envie d'y retourner, ou est-ce que vous y êtes déjà retourné pour faire une version 2 de vos impressions de Berlin et voir s'il y a moyen de superposer un peu votre travail de l'époque avec ce qui se passe aujourd'hui, ou est-ce que vous préférez laisser ces images où elles sont et puis peut-être faire autre chose?
Moi, j'ai fait ce que j'ai fait. C'est vrai que j'étais très content parce que c'était une vie intense à Berlin. J'ai vu deux vies intenses marquées, hein, parce que nous, on pouvait sortir à l'Est, à l'Ouest. Et c'est vrai qu'il y avait quand même une vie intense. Je sais pas si je retrouverais cette vie aussi intense. Après, quand il y a une unité comme ça, moi, je pense pas que je revivrais comme ça des moments aussi forts, quoi. Aussi fort, surtout sur les présences interalliées, etc. Je ne pense pas. Bon, c'est vrai que ça aurait été intéressant d'y aller en 89, quand il y a eu la chute du mur, où tout le monde de voir un petit peu la réaction des gens, en fait, du peuple, par rapport à ça. Bon, maintenant, je pense qu'on est un petit peu plus en arrière, et ça doit être différent, mais intéressant quand même à regarder un petit peu le contraste, et à faire des photos, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas, j'y pense. J'y pense aussi.
D'accord. Bah, l'exposition s'appelle Impression de Berlin. Donc, c'est au Head-On Festival. Je crois que vous êtes sur Bondi. L'exposition sera sur Bondi du 19 novembre au 28 novembre, donc 2021. Bah, voilà. Et Hubert Barré, merci d'avoir accepté de nous parler et d'avoir donné un petit peu de votre temps et dévoiler donc un peu ce que l'on peut voir aujourd'hui à Bondi dans cette exposition. Merci.
Merci à vous. Ouais.
Donnez votre opinion sur les sujets qui vous intéressent. Envoyez un SMS au 04 88 79 93 23 ou rejoignez notre page Facebook pour participer à la conversation.
On
On vous rappelle les grands titres de l'actualité de ce mardi 23 novembre 2021. Les détenteurs de visa, travail, étudiants, famille ou encore humanitaire, de nouveau les bienvenus en Australie. Scott Morrison a annoncé hier ouvrir un peu plus les frontières du continent à partir du 1er décembre. L'Europe, théâtre d'affrontements et de violences, en cause les nouvelles restrictions sanitaires dues à la reprise épidémique. Même son de cloche dans les Antilles, la situation se dégrade en Guadeloupe sur fond de contestation due à l'obligation vaccinale pour les soignants. Et en sport, l'Olympique lyonnais qui risque gros après les incidents contre Marseille. Un huis clos a été décrété par la commission de discipline de la Ligue de football professionnel en attendant ses conclusions le 8 décembre prochain. C'est la fin de cette édition française. Je suis Marianne Murat. J'ai été très heureuse de passer cette heure avec vous. Merci de votre fidélité. Votre prochain journal, c'est jeudi. Même fréquence, même heure. Bonne journée.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.